Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans ce réveil culturel préparé avec Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui, à la prise de son, Delphine Baudet. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Et ce matin, j'ai deux invités, deux autrices. Camille Royer, qui publie Mon premier rêve en japonais chez Futuropolis, et Judith Vanistendel pour Les deux vies de Pénélope, qui paraît au Lombard. Ici, une petite fille qui a peur que sa mère la quitte. Là, une mère obligée d'abandonner sa fille et sa famille pour des missions humanitaires. Dans les deux bandes dessinées, les héroïnes ou les protagonistes principales vivent entre deux mondes, ici en Europe, Paris ou Bruxelles, et là-bas, au Japon ou en Syrie. Alors comment concilier les deux vies, les deux mondes, les deux cultures ?
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Camille Royer.
Bonjour.
Et bonjour Judith Vanistendel.
Bonjour.
Vous avez eu un accident ?
Oui. Accident de vélo.
De vélo ?
Oui.
Et du coup, votre main, votre gagne-pain est bloqué ?
Non, c'est la main droite, c'est le coude qui est cassé, mais je suis gauchère.
Vous dessinez avec la main gauche ?
Oui.
Camille Royer, et vous êtes gauchère aussi ?
Non, je suis droite.
On va commencer par vous, Camille Royer, parce que c'est votre première radio, je suppose,
oui.
et votre premier album qui sort chez Futuropolis, Mon premier rêve en japonais. Parlez-nous de l'héroïne, de cet enfant, Camille, qui s'appelle comme vous.
Oui, parce que c'est moi, donc je raconte mon enfance, et donc c'est la petite Camille qui a 8 ans, et... On la suit dans toutes ses petites péripéties et surtout au moment du coucher où ses parents ont du mal à la faire dormir parce que voilà, elle a peur des fantômes, elle a peur des monstres. Et sa mère, qui est japonaise, va lui raconter tous les contes japonais de son enfance. Et donc voilà, ça va, c'est là que commence le livre.
Avec cette peur qu'a cette fille, c'est que sa mère quitte la France, la maison, pour retourner au Japon.
Oui, parce que pendant toute la bande dessinée, la mère regarde un peu vers le passé et on est témoin sans vraiment comprendre d'une sorte de drame familial où on sent que ça s'est pas bien passé du tout avec la famille au Japon et elle ne les voit plus, elle ne voit plus sa mère, elle ne voit plus sa sœur et du coup c'est vrai que la petite Camille a l'impression que la mère a sacrifié sa vie pour venir en France et s'occuper donc et avoir ses enfants et que là elle regrette. Et qu'elle aimerait en fait finalement retrouver sa mère au Japon et les quitter.
Pour faire votre première bande dessinée, il a fallu que vous alliez vous-même au Japon, Camille Royer.
Oui, parce que du coup, vu que cette histoire est vraie, c'est vrai que j'avais une relation très conflictuelle avec ce pays.
Ce pays qui menaçait de vous séparer de votre mère.
Voilà, c'est ça. Donc ça avait une connotation très négative. Et finalement, quand ma première année d'études à l'école Estienne, j'avais un stage à faire. Et je me suis dit, je vais créer ma propre histoire avec mon pays, qui n'a aucun lien avec cette famille que je connais pas. Et ce sera par l'art, ma passion. Et du coup, je suis partie 2 mois faire un stage chez un illustrateur japonais.
Et la culture japonaise, c'est aussi la culture des contes.
Oui.
Et c'est très important dans votre livre, parce que la petite Camille, elle vit aussi dans ce monde-là.
Ah oui, totalement. Ça nourrit presque son quotidien au bout d'un moment, parce que ces contes vont l'aider à expliquer ce qui se passe dans la vraie vie. Ils vont faire résonance avec les épreuves qu'elle vit tous les jours. Donc ça va parler d'une femme qui disparaît, de la mort.
Donc initiation à la vie et surtout à une culture qu'on a envie d'avoir, de s'approprier pour se rapprocher le plus possible de sa mère, qui passe par de la fiction, par des contes, par des histoires de fantômes, de monstres.
Oui, parce que c'est vrai que pour cette petite fille, toute l'histoire de sa mère... elle est imaginaire presque, parce qu'elle a jamais vu de photos, elle a jamais été, elle a jamais vu cette famille. Et donc du coup, c'est comme une enfance imaginaire qu'elle essaye d'inventer à sa mère. Et donc là, ça passe par les contes et ça passe du coup par l'imaginaire et l'onirique pour recréer un passé qui n'existe presque pas.
Avec un traitement graphique qui épouse justement les questionnements de votre héroïne, puisque vous passez du noir et blanc à la couleur, du crayonné au dessin. Expliquez-nous ça, Camille Royer.
En fait, j'avais vraiment envie de focaliser les scènes quotidiennes et banales en noir et blanc, donc au niveau de gris au crayon. Et dès que de l'imaginaire arrivait, donc que ce soit un conte, un rêve, un cauchemar, ou à la fin, quand l'imaginaire... prend pas sur le réel, je voulais que là il y ait de la couleur Et du coup, j'ai utilisé du pastel.
Pastel éclatant.
Voilà, que j'ai dilué avec de la térébenthine pour créer un effet très brumeux et un effet mystérieux comme ça de rêve.
Est-ce que cette narration, est-ce que votre première bande dessinée, mon premier rêve en japonais, répond aussi à une forme, concilie les deux formes de narration, c'est-à-dire d'une narration japonaise pour les mangas et d'une narration franco-belge, allez, disons franco-belge.
Oui, oui, j'ai jamais voulu faire juste de la narration franco-belge, parce que moi, toute mon enfance, j'ai lu des mangas, et pour moi, les moments d'humour dans la BD, je les trouve, ils font très manga, en fait, c'est très dynamique, il y a des mimiques, et ça, pour moi, c'était très important de le mettre, parce que c'est ce qui me faisait beaucoup rire quand j'étais petite.
Diriez-vous que c'est un livre introspectif ?
Ah oui.
Vous n'êtes pas très tendre avec l'enfant que vous avez été, non. Camille Royer.
Non, c'est vrai, oui. Mais c'était important pour moi de retranscrire la réalité, dans le sens où j'étais vraiment pas la petite fille sage qui se salissait pas, etc. J'étais la petite fille insupportable qui criait tout le temps, qui pétait, qui faisait n'importe quoi.
Mais vous expliquez très bien que tout cela avait une raison, cette peur de perdre sa mère.
Oui, 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 oui. Elle avait tout le temps. C'est vrai que j'avais vraiment cette peur et c'est même le cauchemar dans le livre en dit long. C'était qu'elle rejoigne sa mère et du coup, c'est vrai que je pense que c'est une petite fille agitée parce qu'elle se pose beaucoup de questions et qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas.
Est-ce que vous savez que Judith Van Istendael, elle, avec les deux vies de Pénélope, raconte l'histoire d'une mère qui est obligée de quitter sa fille?
Ben je l'apprends maintenant.
Judith Van Istendael pour les deux vies de Pénélope au Lombard, on en parle dans un instant.
Aisuru anata. Amai yume o mimashou. Tōi kuni de issho ni kurasou yo. Jiyū ni aishi atte. 慈しみ、そして死ぬの。
Maya Barou, elle est comme vous, Maya Barou, Camille Royer. Elle est allée au Japon pour s'imprégner de la culture de sa mère. Et là, elle chante aussi bien en japonais qu'en français. Camille Royer, vous qui venez de publier chez Futuropolis mon premier rêve en japonais, est-ce que aujourd'hui vous parlez aussi bien le japonais que le français?
Pas aussi bien. Je me débrouille, je peux bien comprendre, je peux avoir une conversation, mais je ne peux pas aller dans les détails vraiment.
Vous êtes réconciliée avec cette culture?
Oui, maintenant oui.
Camille Royer, vous publiez donc Mon premier rêve en japonais chez Futuropolis et Judith Van Istendael, elle publie Les deux vies de Pénélope au Lombard. La mère qui est obligée d'abandonner sa fille dans votre histoire, elle le fait parce qu'elle est chirurgienne et surtout qu'elle a décidé d'aller opérer dans des zones en guerre. Et là, en l'occurrence, quand on fait sa connaissance, le temps d'un voyage de retour, quand elle retourne chez elle à Bruxelles, elle revient de Syrie.
Oui, elle est médecin chez Médecins Sans Frontières. Elle est envoyée en mission dans des zones de guerre pour sauver des vies humaines.
Et dans un style réaliste ou semi-réaliste, on voit bien que cette Pénélope-là, votre personnage, médecin, chirurgienne, qui à chaque fois qu'elle revient chez elle se rend compte que il se passe quelque chose, que la vie familiale continue sans elle, elle éprouve quel genre de sentiment ? D'impuissance, de regret, de colère, parce que elle a envie de concilier deux vies qui ne sont pas du tout conciliables. Comment définiriez-vous ces sentiments ?
Elle ne sait pas très bien ce qu'elle ressent. Donc elle a besoin de beaucoup de temps pour comprendre ce que ça fait de partir dans ces zones de guerre et de violence et de revenir chaque fois et ne pas arriver à partager ce qu'elle a vécu là-bas. Donc elle a besoin d'années, donc elle fait ça depuis 10 ans, pour comprendre que c'est impossible de connecter ces deux vies-là.
Alors, elle peut exprimer sa colère que ses proches, que les gens à Bruxelles ou en Occident d'une manière générale ne comprennent pas le chaos de la guerre en Syrie, oui. Le chaos d'où elle vient, mais il y a une autre violence qu'elle a du mal à exprimer, c'est sa douleur de quitter quand même sa fille et sa famille.
Oui, oui. Et elle se rend compte de ce sentiment au moment où il y a une fille qui a exactement le même âge que sa fille.
Et qu'elle n'a pas pu sauver en Syrie.
Elle meurt, cette fille.
Ouais.
Et elle se rend compte, quand elle arrive à Bruxelles, que cette fille morte est revenue avec elle. Elle a fait le voyage avec elle. Et elle vient habiter chez elle, dans son lit, en forme de petit fantôme rouge, sanglant. Et donc c'est là qu'elle commence à se rendre, à voir le problème, le conflit dans lequel elle se trouve. Voilà, elle est perturbée. Au fond d'elle, elle sait très bien ce qu'elle doit faire, ce qu'elle veut faire. Mais bien sûr, il y a les gens qu'elle aime, qui ne veulent pas qu'elle quitte.
Sa sœur, sa mère, sa famille, son
tout
mari,
le monde, tout le monde.
Son poète de mari qui,
oui.
qui reste à la maison.
Oui, ses proches, qui attendent autre chose d'elle, bien
mais
sûr.
Mais elle va repartir.
Elle part, oui.
D'ailleurs, vous jouez.
Elle quitte son enfant.
Vous jouez très bien avec le prénom de votre personnage principal. Elle s'appelle Pénélope, mais c'est pas la Pénélope qui reste et qui attend son mari. C'est les rôles sont renversés. Pénélope part toujours. C'est elle, la Ulysse moderne et humanitaire.
Oui. L'idée pour le livre est venue du fait que je me disais, je suis autrice, on dit maintenant en France. Faisant des histoires, c'est toujours bien de connaître les histoires de base de sa culture. Bon, et moi je suis occidentale, je suis belge, et une des histoires les plus importantes est celle de l'Odyssée, donc d'Homère. J'ai lu le livre, il est incroyable, il est long, il est beau, il est littéraire, il est complexe, et il est fondamentalement pas gentil avec les femmes. Les femmes sont traitées vraiment comme des objets. Mais elles sont données cadeaux, elles sont violées, elles sont...
Il y a le sens de sacrifice de Pénélope.
Déjà, l'héroïne, elle reste à la maison et elle attend. Et elle est très intelligente et très belle, mais elle attend. Et c'est Ulysse qui vit, qui a les aventures, qui fait l'amour, qui vit. Et elle attend. Je pense que je ne suis pas la première à le faire, mais j'ai voulu donner une autre vie à Pénélope. Elle le mérite quand même.
Une Pénélope moderne,
oui.
chirurgienne
faisant qui part.
Voilà, médecin sans frontières.
Oui. Et donc dans l'Odyssée, Odysseus et Pénélope ont un fils, Télémachus. Mmh, ici, ils ont une fille, elle s'appelle Hélène, c'est aussi un nom grec, la belle Hélène, qui est en puberté. Elle a ses menstruations, elle a besoin de sa maman et sa maman n'est pas là.
Pourquoi raconter cette histoire, Judith Van Nistendael? Comment a commencé justement cette idée de faire cet album, Les deux vies de Pénélope?
Mais c'est vraiment venu de l'idée, je vais regarder un classique, je vais lire un classique et je vais regarder ce que je pourrais en tirer. Qu'est-ce que ça me rapporte à moi? Qu'est-ce que je peux faire comme autrice avec une histoire tellement vaste et énorme? En même temps, j'ai toujours eu l'idée de faire une histoire, j'ai toujours voulu faire ça, qui parle de son engagement vers sa famille, l'engagement intime. génétique presque, on dirait, et l'engagement vers l'humanité en abstraction. Donc l'engagement qu'on a comme être humain sur cette terre. Parce que, et ça a l'air énorme, mais aussi, chacun qui a un boulot, il a un engagement vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Et donc je voulais parler de ce conflit. Je pense que beaucoup de gens le ressentent, et moi personnellement je l'ai ressenti. J'ai deux enfants, ben, ça prend du temps. Ça m'oblige à rentrer le soir pour donner à manger à mes enfants. Comme ça, je peux pas continuer à travailler. Et ça c'est pas facile, c'est pas gai toujours. C'est ça. Et donc, ce conflit-là m'intéresse.
Et graphiquement, vous avez décidé d'épouser une technique plutôt très légère, hein, des aquarelles, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a la vie réelle et puis il y a aussi tous ces traumas qui poursuivent votre Pénélope, cette fille morte à Alep qu'elle n'a pas pu sauver et qui est représentée carrément dans ce dessin. Une tache, ouais.
Elle a une tache, mais ouais. Tout est une tache dans cette BD.
Bah oui.
Tout est une tache. Mais ça, c'est plutôt... Bon, au début, c'était un choix physique. J'ai dessiné des BD énormes de 400 pages, 280 pages. J'ai très mal aux épaules. Même si j'ai cassé le coude, mais non, en général, j'ai très mal aux épaules. Donc, dessiner, pour moi, c'est vraiment douloureux. Donc, j'ai cherché une technique légère, le plus léger possible, c'est-à-dire l'aquarelle qu'on jette en quelques taches sur une page, avec quelques traits noirs, le moins possible. Et ça, c'est vraiment physiquement un choix. Mais bon, après, bien sûr...
Ça ne réussit pas à tout le monde, hein, cette formule. Hein.
Non.
Non, mais les auditeurs, ils vont croire qu'on va pouvoir faire une bande dessinée avec des taches d'aquarelle comme
mais
ça.
Mais je l'ai faite. C'est des taches d'aquarelle.
Non, mais on reconnaît les personnages, c'est découpé,
c'est dessiné. Oui,
mais
c'est dans la base, si tu enlèves les lignes noires, en fait, c'est surtout des taches. J'ai dessiné hyper vite, c'était très vite fini le dessin, parce que c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose. Bien sûr, il faut maîtriser l'aquarelle, bien sûr, je ne dis pas que c'est pas facile si on ne maîtrise pas. Si on maîtrise, c'est hyper facile parce que ça va hyper vite. J'ai fait le crayon couleur, c'est beaucoup plus intense à travailler. Ça prend beaucoup plus de temps. L'aquarelle, c'est quelque chose d'éphémère et aussi de perte de contrôle. Mais en même temps, après, je me suis dit, bon, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne bien avec Pénélope parce qu'elle-même, elle a perdu un peu le contrôle de sa vie. Elle ne sait pas quoi choisir, elle ne sait pas quoi faire. Elle est dans le chaos dans sa tête. Il y a un fantôme qui vient dans sa vie sans qu'elle le veuille. Et donc, voilà, j'ai trouvé que l'aquarelle était parfaitement adaptée à ce que je voulais raconter. Donc, j'ai eu de la chance. Mais le début, c'était vraiment un choix parce que ça fait mal.
Camille Royer, dans son premier album « Mon premier rêve en japonais » chez Futuropolis, finit sur une note plutôt optimiste. Ah, l'héroïne finit par réconcilier ses deux vies. Ce n'est pas le cas avec votre Pénélope, dans les deux vies de Pénélope, Judith Van Nistendael.
Moi, je ne trouve pas trop pessimiste non plus. Elle fait un choix qui est très clair. Elle le fait parce qu'elle le veut vraiment, donc c'est pas très négatif, je trouve. C'est dur pour sa fille, mais en même temps, quand on lit le livre, on voit qu'il y a un père magnifique. Il y a une grand-mère un peu, pas toujours magnifique, mais quand même, une chouette grand-mère et une sœur insupportable. Elle est entourée, donc elle ne laisse pas sa fille juste comme ça. Et en plus, son mari, qui l'aime beaucoup, comprend le choix. Il comprend. Donc, je trouve...
Il faut dire que son mari est poète.
Il est poète. Très doué. Très, très, très doué. Et il est un père magnifique.
Au lieu
gentil,
de tisser des...
Il comprend.
Eh ben, il écrit.
Il écrit, oui. Des poésies sur sa famille. Très douce.
Il y avait aussi des questionnements de votre vie en tant que qu'autrice et mère, Judith Van Nistendael, dans ce récit, les deux vies de Pénélope.
Bon, pour être très concret, ça se déroule dans ma maison et la fille de Pénélope dans le livre, c'est ma fille. Parce que quand j'ai voulu créer un caractère d'une fille en puberté, ma fille avait 13-14 ans et elle était parfaite. Elle était parfaite pour ce personnage. Mais personnellement, la seule chose que je pourrais dire, c'est que quand j'ai eu des enfants, j'ai eu l'envie de partir. J'ai eu... une urgence de partir, je veux pas ceci. C'était un choc pour moi avoir des enfants. Mais j'ai choisi de ne pas partir. Je suis restée et je suis une maman poule, on dit en français. Donc, je m'identifie moi-même plutôt avec Otto. Je dirais plutôt avec lui le besoin d'une vie familiale, de création artistique, etc. C'est une histoire que j'ai voulu raconter parce que j'ai ressenti vraiment cette urgence, ce besoin de partir, mais je sais aussi que c'est un choix. Donc c'est une histoire d'une femme qui choisit.
Merci beaucoup Judith Van Nistendel.
Merci.
Les devis de Pénélope sort au Lombard. Et merci Camille Royer.
Merci beaucoup.
Pour votre première bande dessinée que je recommande tout autant, Mon premier rêve en japonais chez Futuropolis. Merci beaucoup.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et je crois que c'est la première fois que je fais une émission autour de la bande dessinée entourée d'autant de femmes. Il n'y a pas que Judith Van Nistendel et Camille Royer ce matin au studio de France Culture pour le réveil culturel. Il y a aussi Sonia Deschamps, notre amie et partenaire du magazine Casemate. Sonia Deschamps, bonjour, ravie de vous retrouver. Et est-ce qu'on peut dire que cette rentrée littéraire au rayon BD se décline au féminin cette année?
Mais absolument, avec de très très bons albums. Isabelle Pralon, par exemple, publie avec Irène de Santa Anna « Je suis au pays avec ma mère », c'est publié chez Atrabile. Alors Irène de Santa Anna, elle est psychologue, elle a rencontré il y a plusieurs années Cédric, un jeune requérant d'asile originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest, arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans, et qu'elle a eu donc en consultation 2 ans après son arrivée. Cédric venait alors de passer 3 mois à dormir dans les parcs après le rejet de sa demande d'asile. Dans son pays, Cédric a fait de la prison, sans raison, on l'a pris pour un émeutier qu'il n'était pas, il allait seulement prévenir un ami de la famille que son père était décédé. Il a ensuite fui en Europe et c'est depuis la Suisse qu'il a appris la mort de sa mère. C'est une histoire terrible comme il en existe malheureusement beaucoup d'autres, mais ce qui est passionnant avec ce livre, c'est que précisément Isabelle Pralon ne nous raconte pas en bande dessinée le parcours de Cédric, il ne s'agit pas d'une biographie dessinée. Les courts textes d'Irène de Santa Anna nous permettent de comprendre le parcours de Cédric et d'avoir accès à ses questionnements, mais la dessinatrice, elle s'est emparée des rêves que Cédric a raconté à Irène de Santa Anna pour leur donner forme. Il y a de la poésie dans ces courtes bandes dessinées, une poésie dure, éprouvante. Isabelle Pralon réussit à faire de son dessin en fait une évidence. Comment autrement que par son trait, que par ses compositions, nous procurer ses sensations, ses émotions? Une façon différente de raconter l'exil de ce qu'en tout cas moi j'ai pu lire jusqu'à présent. C'est un album extrêmement puissant.
Je suis au pays avec ma mère d'Isabelle Pralon. C'est édité chez Atrabile. Et puis une autre bande dessinée que vous m'avez conseillée, Sonia Deschamps, et qui est très bien. C'est Nagasaki.
Exactement.
D'Agnès Ostache, publié au Lézard Noir. Et c'est l'adaptation d'un roman d'Éric Faye.
Oui, c'est la première production maison du Lézard Noir, un éditeur de manga Poitevin qui édite déjà d'excellentes œuvres japonaises telles que La Cantine de Minuit ou Shizakobe. On en a parlé ici. Alors Nagasaki, c'est l'autoportrait de Shimura-san, quinquagénaire déçu de l'être si tôt et si fort. Shimura, il est météorologue, il est célibataire et un jour, il a ce sentiment de ne pas être seul chez lui, croire remarquer que quand il rentre le soir, certaines choses ne sont pas tout à fait à leur place, mais vraiment de quelques centimètres, qu'il manque parfois un yaourt ou quelques centimètres de jus d'orange. Alors il va chercher à démasquer l'intrus. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'est d'une beauté folle. Agnès Ostache a un sens du cadrage qui porte vraiment, vraiment le texte. Une attention particulière est portée à chaque objet, pantoufle, horloge, tiroir, brosse à dents. Le dessin et les couleurs font que chaque parcelle de page est chargée d'émotions. Il y a vraiment un sens de la composition assez époustouflant. Bref, c'est un album magnifique.
L'album d'Agnès Ostache, Nagasaki, est publié au Lézard Noir. Très bel album, vous avez raison de préciser Sonia Deschamps, mais on va quand même terminer cette sélection rentrée avec peut-être des histoires un peu plus légères.
Oui, de la légèreté qui n'exclut pas profondeur, tout à fait. Tulipe et les sorciers, c'est publié chez 2024. On retrouve l'ours Tulipe de Sophie Guérive que certains connaissent peut-être déjà. Gros coup de cœur à chaque fois, des histoires courtes d'une page dans lesquelles on retrouve donc Tulipe adossé inlassablement à son arbre, mais aussi ses camarades, Crocus le serpent qui se croit prophète, Violette l'oiseau qui cherche toujours à entrer en contact avec son amoureux, le soleil, et puis il y a l'œuf qui devient trèfle, une tortue qui va entreprendre un grand voyage à quelques buissons de là, et toujours Caillou, qui désespère de n'être qu'un caillou. Ouais. Le monde de Tulip, c'est un monde peuplé d'animaux existentialistes qui nous touchent parce qu'ils nous renvoient forcément à notre condition humaine. Il y a du Mafalda dedans, du Peanuts aussi. J'ai aussi pensé à l'Ours Barnabé de Jean-Luc et Philippe Coudray. C'est drôle, fin, plein d'esprit, à lire absolument à tout âge.
Allez, un tout dernier. Mais alors très très rapidement, Sonia.
Promis. Dans la collection BDQ des requins marteaux, DS d'Aude Picot, oui. L'autrice revisite le mythe d'Adam et Ève sous l'angle du plaisir, du désir. Et c'est détonnant pour un public averti, évidemment.
Bref, les femmes sont très présentes dans cette rentrée littéraire. Au rayon BD, bien sûr, Sonia Deschamps.
Partout.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Je vous souhaite de passer un excellent vendredi avec France Culture, un très bon week-end. Nous, on se retrouve lundi avec une autrice, Justine Beau, pour son roman paru chez Grasset, Onanisme. À bientôt.